Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la politique agricole commune, la PAC, est la plus ancienne et la plus importante des politiques communes de l'Union européenne. Créée il y a tout juste 50 ans par le traité de Rome en 1957, elle a été mise en place 5 ans plus tard en 1962 avec pour objectif d'accroître la productivité de l'agriculture, d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables aux consommateurs. Actuellement, les agriculteurs bénéficient d'aides directes et indirectes. Les aides indirectes correspondent au prix garanti et ces aides assurent aux agriculteurs un prix minimum pour leur production en comblant la différence entre prix du marché et prix garanti. Quant aux aides directes aux revenus, elles datent de la réforme de 92, en échange d'une baisse des prix garantis, l'Union européenne verse des aides proportionnelles à la superficie de l'exploitation. Par ailleurs, la préférence communautaire permet d'isoler l'agriculture européenne des variations des prix mondiaux. Mais la PAC reste critiquée pour plusieurs raisons. La difficulté à stabiliser son budget, des problèmes de fonctionnement liés à l'élargissement à 27, et puis l'inégalité des aides qui profitent aux pays producteurs et aux propriétaires d'importantes exploitations, puisque les aides sont proportionnelles aux quantités produites. La réforme de 1999 a cherché à rapprocher la PAC du marché en baissant les prix garantis et en les remplaçant par des aides directes. Et la dernière réforme du 26 juin 2003 tente de résoudre le problème des difficultés de financement liées à l'élargissement. Désormais, les agriculteurs touchent un paiement unique par exploitation à la condition de respecter des normes européennes en matière d'environnement et de sécurité alimentaire. Alors aujourd'hui, quel est le bilan économique de la PAC ? Qui est bénéficiaire, qui est perdant, quels sont les chiffres d'exportation et d'importation, comment nous situer vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Nous allons aborder toutes ces questions en compagnie de Lucien Bourgeois. Lucien Bourgeois, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints au studio de Canal Académie, au cœur de l'Institut de France. Vous êtes économiste, sous-directeur à l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture, l'APCA, et bien sûr membre de l'Académie d'agriculture. Donc vous avez livré un bilan positif de la politique agricole commune. Donc avec vous, nous allons pouvoir parler en détail de ce bilan économique. Auparavant, Lucien Bourgeois, peut-être pourriez-vous présenter en quelques mots en quoi consiste l'APCA, qui est un organisme qui n'est pas spécialement connu.
Alors l'APCA, c'est la, en quelque sorte une fédération des chambres d'agriculture. Et dans le paysage politique français, les chambres d'agriculture sont au même titre que les chambres de commerce, qu'on appelle un organisme consulaire, qui a la particularité d'être financé par une taxe parapiscale et donc une sorte d'impôt, et en même temps dirigé par des membres élus au suffrage universel des agriculteurs et des actifs agricoles tous les 6 ans. Et donc nos présidents sont des agriculteurs élus et les chambres d'agriculture doivent apporter un service aux agriculteurs et l'essentiel des salariés des chambres d'agriculture sont des techniciens et des ingénieurs qui vont donner des conseils aux agriculteurs. Et il y a une chambre d'agriculture par département.
Donc vous êtes en lien direct avec l'agriculteur, vous êtes chargé de réaliser des statistiques auprès de cette chambre d'agriculture ?
Oui, c'est-à-dire que notre rôle est un rôle d'étude, d'essayer de comprendre un petit peu les évolutions de l'agriculture française et de l'agriculture mondiale, ou de l'agriculture française dans l'agriculture mondiale, ou dans le commerce mondial, et d'essayer d'évaluer les chances de compétitivité de l'agriculture française.
Alors, attaquons le dossier politique agricole commune, qui, comme je le disais à l'instant, était un peu un sujet mal aimé, difficile à comprendre peut-être, puisque c'est peut-être un peu rébarbatif pour nous, et même pour nous auditeurs, et également pour nous journalistes. Peut-être pourrions-nous commencer par des chiffres. Depuis 2005, c'est ce que vous disiez lors de votre présentation, lors de la séance de l'Académie d'agriculture, depuis 2005, l'Union européenne exporte plus de produits agroalimentaires que les États-Unis. Là, c'est peut-être déjà un premier constat plutôt positif.
Oui, c'est très amusant ce dossier agricole, puisqu'on a l'impression toujours que l'Europe est perdante dans la compétition internationale, alors que c'est pas du tout vrai. En fait, quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que l'Europe, même dans sa partie extérieure, c'est-à-dire en ne comptant pas le commerce entre la France et l'Allemagne, l'Europe pour sa seule partie extérieure, exporte plus de produits agroalimentaires que les États-Unis depuis 2005. C'est vrai que c'est assez nouveau, mais quand même, ça date déjà d'un certain temps de cette montée en puissance, parce que nous sommes meilleurs que les États-Unis sur les produits transformés, les produits alimentaires transformés, sur tout ce qui sort de l'industrie agroalimentaire.
Et pourtant, nous avons deux fois moins de terres exploitées qu'aux États-Unis. Ça veut dire que nous avons une agriculture productiviste ?
Oui, en tout cas, une agriculture plus intensive qu'aux États-Unis, puisqu'ils ont la chance d'avoir beaucoup de terres. C'est un grand pays agricole. Et puis, ils ont la particularité, en tout cas, d'avoir beaucoup moins de personnes, beaucoup moins d'habitants que nous, puisqu'ils sont à peu près 300 millions. Nous sommes 500 millions maintenant dans l'Union européenne à 27. Et donc, nous arrivons à nourrir 200 millions d'habitants de plus que les États-Unis, avec deux fois moins de terres que c'est effectivement une agriculture plus intensive.
Dans les statistiques que vous avez fournies, il est établi les exportations dans les années 80 et en 2005. Dans les années 80, ce sont les États-Unis qui exportent le plus.
Oui.
Et la France va les rattraper en 2005. Comment on explique qu'il y ait comme ça un rattrapage si féroce de l'Union européenne ?
Mon explication est relativement simple à comprendre. Les États-Unis sont plutôt plus spécialisés que nous sur des produits, sur des matières premières. Or, ça serait bien la première fois qu'un pays riche pourrait durablement gagner sur la vente de matières premières. Tout le monde sait qu'on n'a jamais gagné une compétition sur la vente de matières premières. On est beaucoup plus fort que les États-Unis sur les produits transformés, et l'avenir est aux produits transformés. Quand on échange avec les États-Unis, entre la France et les États-Unis, du vin, nous, on exporte du vin et eux, ils nous exportent des graines de soja. Il est complètement évident que on va trouver plus de débouchés pour nos vins que eux pour leurs graines de soja.
Nous exportons beaucoup, mais nous importons également beaucoup. Qu'est-ce que nous importons? Justement, les produits, les matières premières?
Alors, c'est-à-dire que nous, en Europe, on importe beaucoup de matières premières, c'est-à-dire qu'une grande partie des aliments du bétail dont nous avons besoin pour nourrir les poulets, nourrir les porcs, viennent effectivement d'un certain nombre de pays, en particulier des États-Unis, mais maintenant de plus en plus du Brésil et d'Argentine. Et ce sont ce qu'on appelle des oléagineux, c'est-à-dire ou du soja, ou du tournesol, ou du colza, qui vient de ces pays-là pour nourrir nos animaux.
Vous parliez des aliments que nous pouvions exporter. Ce sont donc les vins, les spiritueux, la viande également.
Alors, c'est-à-dire qu'en France, nous avons une particularité, c'est que nous sommes excellents sur les vins et boissons. Nous avons une longue tradition en matière d'alcool, de cognac ou d'armagnac, mais en particulier le cognac. Je vous signale que le cognac a connu une grande expansion sur les États-Unis, et en particulier dans la communauté noire américaine, qui a trouvé une certaine forme de différenciation avec l'élite blanche en buvant ce cognac par rapport au whisky. Et ça s'exporte très bien. Et nous arrivons à avoir même des choses étonnantes, c'est-à-dire que nous arrivons à exporter de l'eau. Ce qui est quand même quelque chose d'assez paradoxal, assez extraordinaire quand même quand on y pense, c'est-à-dire d'extraire de l'eau gazeuse ou non gazeuse et d'exporter de l'eau. Ce n'est pas un produit agricole, donc ce n'est pas ma préoccupation principale, mais c'est assez amusant de voir que nous sommes de très 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 bons sur les exportations de vins et boissons, de l'ordre de 7 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas du tout négligeable, ce qui est à peu près la même chose ou pas loin en tout cas d'être la même chose que pour l'industrie automobile.
Et finalement, plutôt que de parler de politique agricole commune, vous parlez plutôt de politique alimentaire commune.
Oui, alors ça, je voudrais revenir sur le principe de la PAC et en cela dire tout le bien que je pense de la PAC, dire que quelquefois on croit que la PAC a été faite pour les agriculteurs. Et j'ai tendance à penser, et j'avais employé à l'Académie l'expression de Géronte de Molière, mais que diable allait-il faire en cette galère ? Et c'est vrai qu'on peut se demander aujourd'hui pourquoi on a été faire une PAC qui était quelque chose d'extrêmement difficile, puisqu'il y avait plusieurs millions d'agriculteurs en Europe, dans la première Europe des six. Et donc, on pouvait se demander si ce n'était pas une erreur de commencer par l'agriculture plutôt que de commencer par l'automobile ou l'aéronautique. Et en fait, non. La réponse à cela est de dire que, certes, les agriculteurs ont préoccupé les gouvernants, mais c'est surtout les consommateurs qui préoccupent les gouvernants. Et je rappelle constamment que nous sommes censés manger trois fois par jour, et que manger trois fois par jour, c'est quelque chose d'un peu angoissant, c'est-à-dire de se dire qu'il ne faut pas manquer de quoi que ce soit pour pouvoir manger ces 3 fois par jour. Et encore, si on mangeait 3 fois par jour des cornflakes et du cornet de bif, ça serait très facile à résoudre pour l'industrie agroalimentaire. Ça serait très facile. Mais nous avons l'habitude de manger des produits divers, des produits frais, et donc on ne peut pas stocker. Et donc c'est très difficile de pouvoir fournir tout cela. Donc on mange 3 fois par jour et il faut 1 an pour faire un grain de blé. C'est une source de crise épouvantable. Et donc, c'est parce qu'il y avait cette source de crise épouvantable que nous avons essayé d'intervenir dans ce secteur pour essayer de rassurer les consommateurs et de faire en sorte qu'ils puissent manger 3 fois par jour sans faire trop de dépenses en matière budgétaire. Et du coup, on a mis en place cette politique dite agricole commune, mais que je préfère effectivement dire alimentaire commune, puisque c'est à cause de cela que nous avons fait la première PAC. Je vous rappelle que on avait en mémoire les tickets de rationnement de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis l'autre chose qu'on avait en mémoire, c'était que après la Deuxième Guerre mondiale, les mitrailleuses se sont tues, certes, mais la guerre a continué sous forme de guerre froide. Et nous avons été dans une Europe coupée en deux. Et l'Europe coupée en deux, c'était l'impossibilité pour la France, pour l'Angleterre ou pour l'Allemagne d'aller acheter du blé en Hongrie, en Ukraine ou en Prusse. Et donc, l'Europe a été complètement coupée de ses greniers à blé traditionnels, à part le bassin parisien.
Alors, c'est en 1980 que l'Union européenne arrive à devenir autosuffisante.
Oui, du coup, on a fait une politique agricole commune favorable à la production. Et même dans le secteur des céréales, alors que nous avions beaucoup moins de terres que les États-Unis, nous avons réussi à être autosuffisants. Nous avions été autosuffisants avant sur les productions animales et sur le lait. Même sur les céréales, nous avons réussi à être autosuffisants depuis 1980.
Vous parliez des consommateurs. Et notamment, si on fait un résumé, nous avons donc une agriculture rentable, productive, qui exporte. Comment on explique, au regard du grand public, que malgré tous ces aspects positifs, le panier de la ménagère voit une augmentation des prix de ses denrées alimentaires?
L'augmentation est rare quand même. L'augmentation est rare, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait comme évolution, c'était une forte baisse des prix agricoles à la production, qui augmentait beaucoup moins vite, en tout cas, que le reste des prix. Grosso modo, ils ont été à peu près divisés par 2 en 25 ans. Et une relative stagnation des prix alimentaires à la consommation. Alors, on peut se dire, c'est pas normal que si les prix des produits agricoles baissent, les prix des produits alimentaires ne baissent pas. L'explication est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que nous ne mangeons pas tous les jours du lait qui sort du pied de la vache. Nous mangeons des yaourts, nous mangeons et des yaourts qui sont dans des paquets de plus en plus sophistiqués avec des cartons pour les emballer, des paquets dans lesquels il y a un yaourt à la banane, un yaourt aux myrtilles, donc avec une variété de produits qui est tout à fait différente. Et donc il y a un travail de packaging, un travail qui nécessite beaucoup de manœuvres, qui explique la différence entre les deux prix, entre le prix à la production et le prix à la consommation. Mais jusqu'à maintenant, les ménages en France ont dépensé une part de plus en plus faible de leurs revenus pour l'agriculture, puisque aujourd'hui, on est rendu à peu près à 14%. 14% du budget moyen d'un ménage est consacré à l'alimentation et aux boissons non alcoolisées. C'est pas énorme. Aujourd'hui, le logement, avec l'équipement du logement, c'est 2 fois plus. C'est-à-dire que dans les dépenses des Français, le logement et l'automobile est passé avant l'alimentation.
Là, vous parlez des produits transformés, mais qu'en est-il des légumes, des fruits? L'été 2007, et il y a eu des manifestations, puisque les fruits et légumes devenaient très chers sur le marché. Alors comment on l'explique, alors que justement nous sommes dans une politique de production?
Oui, c'est toujours très difficile à expliquer, je ne veux rien justifier. Je veux simplement rappeler qu'effectivement, c'est quand même pas si simple que ça. Un fruit, pour qu'il soit à peu près à point, dure à peine une semaine pour et quelquefois moins pour les fraises ou pour les framboises. Et donc, il faut que ce fruit soit cueilli, soit transporté, soit mis à disposition des consommateurs. Et les fameux consommateurs en été ont l'habitude d'aller en vacances et de bouger. Et donc, et selon qu'il fait beau ou qu'il fait mauvais, ils iront plus sur la Côte d'Azur ou plus en montagne ou plus dans les zones rurales. Et donc, ça suppose aussi tout un effort de la chaîne de distribution pour s'adapter à ces consommateurs relativement fantasques. Et donc, ça suppose aussi que chaque maillon de la chaîne puisse se rémunérer. Et je crois que là, on a, comme dans tous les secteurs, comment dirais-je, des différences de prix qui s'expliquent probablement plutôt par le fait qu'il y a des marges commerciales, mais il y a aussi du transport, il y a de la perte, une sophistication relativement importante maintenant dans la plupart des magasins. Vous ne trouvez pas qu'une variété de pommes, vous en trouvez que 10. Et donc, tout ça se paye un petit peu par des prix qui sont un peu plus élevés, probablement.
Je vous propose de marquer une première pause, première courte pause, Lucien Bourgeois. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Merci.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Lucien Bourgeois, avec qui nous discutons du bilan économique de la PAC. Dans cette deuxième partie, Lucien Bourgeois, nous allons parler d'un sujet qui fâche, à savoir le coût de la PAC. Ça fait partie justement des sujets qui peuvent alimenter les contradicteurs, en tout cas de la PAC. La PAC coûte à peu près 10 milliards d'euros. C'est énorme.
Oui, comment pour la France, pour la partie française. Hein, et au total, la PAC pour l'ensemble de l'Europe coûte une quarantaine de milliards. Et c'est effectivement beaucoup parce que on a l'habitude de dire que c'est 40% des dépenses de l'Europe, des dépenses européennes. Et c'est vrai que ce chiffre de 40% peut faire peur. En fait, ce qu'il faut quand même dire de ce point de vue-là, c'est que l'Europe a malheureusement peu de politiques communes et que la politique agricole est une des seules politiques que nous ayons en commun avec la politique régionale. De fait, effectivement, les dépenses agricoles correspondent à peu près à 40% du budget, mais ce sont des dépenses qui sont à peu près du même type que celles qu'on a aux États-Unis. En fait, de dire que la PAC coûte à peu près 40% du budget européen, c'est plutôt une constatation malheureuse pour dire que l'Europe n'a pas de budget à la mesure de sa puissance. Et c'est ça le problème important. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, on se bat pour ne pas dépasser 1% du PIB en budget fédéral. Aux États-Unis, le budget fédéral représente à peu près 20% du PIB. Je n'ai pas dit qu'il fallait passer de 1 à 20, mais c'est vrai que comme nous avons à peu près la même puissance au niveau mondial que les États-Unis, l'Europe a à peu près la même part du PIB mondial que les États-Unis, c'est-à-dire un peu plus de 20% du PIB mondial chacun. C'est vrai que c'est assez troublant de voir que l'Europe essaye de se gouverner avec un budget aussi faible, certes, dont une grande partie passe pour l'agriculture, mais on voit bien en même temps que la difficulté de l'Europe à avoir des politiques d'innovation sérieuses, quand on voit la difficulté qu'on a à financer Galiléo, par exemple, ce qui n'est pas normal. Enfin, c'est vrai qu'on devrait avoir une politique de l'innovation qui soit digne de ce nom. Et c'est simplement que l'Europe n'a pas les moyens politiques de sa puissance économique, on va le dire comme ça. Parce que pour les dépenses agricoles, je disais tout à l'heure qu'elles étaient à peu près du même type que celles qu'on observe aux États-Unis. J'ai fait le calcul pour la France que les 10 milliards d'euros représentaient à peu près la même dépense que les dépenses d'assurance des Français pour leurs voitures et leurs logements. Donc, des dépenses agricoles qui ne sont guère supérieures à l'effort que font les Français pour avoir une sécurité sur leur voiture et sur leur logement n'est pas choquant. C'est-à-dire qu'avoir à peu près le même effort pour avoir une sécurité alimentaire qu'une sécurité sur les biens, ça me paraît tout à fait, convenable et tout à fait justifiable.
Alors, lors de la séance de l'Académie d'agriculture, vous avez présenté donc votre communication sur le bilan économique de la PAC. Edgar Pisani, l'ancien ministre de l'Agriculture, a lui aussi donné sa version et sa vision des choses concernant la PAC. Il y avait plutôt un regard pessimiste, si j'ose dire. Et notamment, il regrettait le fait que la PAC sollicite d'autant plus, avec la nouvelle réforme, une agriculture intensive, avec de grands champs, plusieurs hectares, avec un seul propriétaire, au détriment des unités familiales. Est-ce que vous pensez, vous, l'économiste, qu'il est préférable d'avoir plusieurs petites unités familiales et de cela, et par là, justement, maintenir un emploi rural, ou est-ce qu'au contraire, il faut encore accentuer plus l'agriculture intensive ?
Edgar Pisani a la particularité d'être un visionnaire. Edgar Pisani a été ministre de l'Agriculture pendant 7 ans, au moment où on a mis en place la PAC. Et il a raison de dire qu'on pourrait mieux faire et qu'on pourrait mieux utiliser le budget de la PAC en ayant d'autres objectifs que ceux qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de la politique agricole commune est plutôt orienté sur les économies budgétaires. Enfin, c'est l'idée, en tout cas, des politiques actuellement, c'est plutôt d'essayer de faire des économies budgétaires. Lui, il dit, il serait important d'être un peu plus attentif à l'emploi dans un pays qui a beaucoup de chômage. Est-ce qu'il est important d'inciter les agriculteurs à avoir de plus en plus d'hectares et d'être de plus en plus mécanisés? C'est une vraie question. Elle est d'autant plus vraie que le problème se pose de façon encore plus compliquée maintenant qu'on a l'élargissement. C'est-à-dire que les 3 nouveaux membres, que sont la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne, comptent à eux 3 7 millions d'exploitations, c'est-à-dire la moitié de l'effectif européen.
51%, c'est ça ?
Voilà. Et donc, cette moitié d'effectifs ne compte que pour moins de 10% de la production totale. Et donc, on voit bien, dans ce cas-là, pour ces 3 pays, que toutes les mesures qui seront prises pour assurer un revenu des agriculteurs à partir de la production seront inopérants et qu'il faudra trouver d'autres méthodes. Et je crois que là, on a un vrai problème d'emploi et qu'effectivement, il faudra trouver d'autres formes d'agriculture à encourager pour tenir compte de nos problèmes d'emploi et en particulier à cause de l'élargissement.
Alors, en 1992, en 1999 et en 2003, il y a eu plusieurs réformes de la PAC. En 92, il s'agissait de mettre en place les aides directes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur les fameuses aides directes qui sont directement données aux agriculteurs ?
Oui, en 92, nous étions dans une situation curieuse. J'ai dit tout à l'heure qu'une des raisons qui ont expliqué la PAC au début, c'était le mur de Berlin. C'était le fait qu'on avait une Europe coupée en deux et que pour des raisons stratégiques, il était important que les consommateurs européens n'aient pas peur de manquer d'alimentation. Et donc, pendant toute la période où le mur de Berlin a existé, on avait cette crainte, en tout cas, que les consommateurs n'aient pas suffisamment pour se nourrir et puissent avoir des problèmes de pénurie. À partir du moment où le mur de Berlin est tombé, en 89, les Américains n'avaient plus aucune raison de nous faire des cadeaux dans les négociations internationales.
Et notamment d'accepter la taxe variable.
Oui, c'est ça, d'accepter que nous protégions notre marché avec des mécanismes que je qualifierais de relativement pervers, en tout cas, qui sont en tout cas exceptionnels dans le droit des échanges, puisque nous avions une protection qui était une taxe qui était variable, effectivement, en fonction des prix du marché mondial et du marché communautaire. À partir du moment où le mur de Berlin était tombé, il fallait trouver un mode de fonctionnement avec nos amis américains. Et ils nous ont fait sentir, dans les négociations du GATT à cette époque-là, de l'OMC maintenant, Organisation Mondiale du Commerce, que si nous ne voulions pas entendre, ils prendraient des mesures de rétorsion, et en particulier sur le vin, qui est un produit qui nous tient à cœur, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, nous avons changé un peu notre fusil d'épaule. Nous n'avions pas beaucoup d'idées sur la façon de faire une nouvelle politique et nous avons la particularité en Europe d'être très différents les uns des autres et c'était pas facile de trouver une politique qui satisfasse tout le monde. Et du coup, nous avons été chercher la solution la plus facile qui était d'aller copier bêtement ce que faisaient les Américains sur leur politique agricole et la réforme de 92 est la transposition en Europe de la politique américaine de cette époque-là et on s'est dit fort justement d'ailleurs que si nous avions le même système que nos amis américains, nous ne risquions pas d'avoir leurs critiques dans les négociations. négociation du GATT. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons fait la réforme et un an plus tard, nous avons signé les accords de Marrakech avec au GATT, dans lesquels nous avions fait une certaine paix armée avec nos amis américains. Ceci étant, c'est pas parce que c'était un système qui fonctionnait vaille que vaille aux États-Unis que c'était un bon système. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de découvrir, avec l'augmentation des prix que nous observons sur les marchés, que ce système a quelques inconvénients et pourrait en particulier inciter les agriculteurs à produire moins. Et dans une période dans laquelle la pénurie est telle que les prix montent au ciel, il serait peut-être bon que nous réapprenions à encourager la production, et c'est ce que nous allons peut-être essayer de faire dans les années qui viennent, ou dans les mois qui viennent, j'espère.
En baissant les quotas, par exemple, ou en utilisant les jachères?
On a à notre disposition une panoplie de systèmes qui peuvent fonctionner, c'est-à-dire que nous avons effectivement, depuis 1983, en France et en Europe, un système qui interdit aux producteurs de lait de produire plus qu'en 1983, on peut essayer de leur dire qu'ils peuvent produire un peu plus de façon à ce que le prix du beurre ou le prix de la poudre de lait puisse baisser. On avait pris l'habitude, comme les Américains, de mettre une partie de nos terres dans ce qu'on appelle la jachère, c'est-à-dire de ne pas les cultiver. On pourrait cultiver davantage de terres et à ce moment-là, on aurait un peu plus de production. Il faudra être méfiant. En tout cas, il faudra être méfiant parce que autant nous pouvons constater que les prix ont beaucoup monté actuellement, mais nous savons d'expérience que les prix peuvent très facilement monter très vite dans les produits, dans les marchés agricoles et peuvent redescendre aussi vite. Et dans ce cas-là, il faudra pouvoir empêcher les agriculteurs de tomber en faillite le lendemain parce que les prix seront trop bas.
Et notamment, pour ce qui est en tout cas de la surproduction, en tout cas d'accroître la production, il s'agirait de baisser les seuils de prix, enfin les prix garantis, il s'agirait de les baisser par exemple?
En tout cas, la politique actuelle est une politique dans laquelle on nous explique qu'il faut diminuer toutes les interventions de l'État vis-à-vis de l'agriculture. Je ne suis pas persuadé que nous ayons raison de toujours, de tout supprimer. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons pris l'habitude pendant un certain temps d'utiliser un certain nombre de moyens pour réguler les marchés agricoles. J'ai tendance à penser aujourd'hui que nous payons le prix d'une moindre attention sur cette régulation des marchés agricoles. Alors, pour le moment, jusqu'à maintenant, on en avait profité parce que les prix avaient tendance à baisser relativement vite. Aujourd'hui, ils montent relativement vite et on voit bien les inconvénients que cela peut avoir sur les consommateurs, et en particulier les consommateurs les plus pauvres. Et donc, il est important, me semble-t-il, de garder dans la boîte à outils un certain nombre d'outils qui ont été performants dans le passé et qui peuvent tout à fait montrer leur pertinence aujourd'hui.
Aujourd'hui, la réforme de 2003, Lucien Bourgeois, fait que les grands producteurs, les grands agriculteurs qui ont beaucoup, beaucoup d'hectares en culture reçoivent d'autant plus d'aides. Comment on explique qu'on donne d'autant plus d'aides aux grands producteurs plutôt qu'aux petits producteurs?
Oui, le système qui a été mis en place est un système qui privilégie, j'allais dire, les aides historiques, ou en tout cas les aides qui ont été données à un certain moment et qui les reproduisent. Moi, j'ai tendance à penser que le système le plus simple, de toute façon, à terme, c'est que ce soit les produits qui rémunèrent les producteurs. Et de ce point de vue-là, effectivement, quand on produit plus, on gagne plus d'argent, mais en tout cas, on met plus de produits sur le marché. Et qu'effectivement, les aides soient plutôt réservées à apporter une compensation par rapport à un revenu. Et c'est vrai qu'on peut trouver des moyens plus, j'allais dire, judicieux de répartir les aides. La façon dont on le fait dans le secteur agricole n'est pas une logique de répartition, une logique d'équité sociale. Elle est une logique de potentiel agricole. Et de ce fait, ceux qui ont le plus grand potentiel ont le plus d'aides. Mais je pense que nous pourrons à l'avenir trouver des méthodes qui soient quand même plus équitables au niveau social.
Cette réforme met en avant le fait de respecter l'environnement et la sécurité alimentaire. Comment développer justement cette question d'environnement et de sécurité alimentaire lorsqu'on a de plus en plus d'agriculture et de culture intensive ?
Ce n'est pas incompatible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le problème de l'environnement est une condition complètement évidente. On n'imagine pas aujourd'hui de construire une industrie chimique qui polluerait toute la région comme ça a pu se faire il y a 25 ans ou il y a 35 ans. Et donc là, je crois que que ce soit pour l'industrie chimique ou pour l'agriculture, il est évident qu'aujourd'hui, dans la mesure où on a une activité productive, il faut respecter les conditions environnementales de notre société. Ça fait partie des conditions évidentes de production et je crois que là, on est interrogé sur notre capacité à évoluer et à innover. Et je crois que nous avons la chance en France d'avoir 8000 chercheurs à l'INRA, beaucoup de chercheurs au CNRS, beaucoup de chercheurs dans les universités, beaucoup de techniciens dans les chambres d'agriculture ou dans les instituts techniques. Je crois que tout ce monde-là est là pour aider les agriculteurs à maîtriser les problèmes environnementaux et à essayer de produire le mieux possible. Mais ce n'est pas incompatible d'être productif et en même temps respectueux de l'environnement.
Eh bien, je vous propose de marquer une seconde courte pause, Lucien Bourgeois, et on se retrouve tout de suite après pour cette fois-ci peut-être parler un peu plus du regard de nos voisins, notamment des États-Unis et de la Chine, sur la PAC. À tout de suite.
D'accord, merci.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Lucien Bourgeois. Dans cette dernière partie, Lucien Bourgeois, nous allons parler de l'euro fort par rapport au dollar. Est-ce un avantage ou un inconvénient dans le cadre de la politique agricole commune? Nous allons également parler de la lecture industrielle de la politique agricole commune. Vous allez pouvoir nous en dire plus dans un instant. Mais tout de suite, parlons de l'euro. L'euro actuellement, 1 euro égale à 1,41 $. Il me semble, actuellement. Alors, est-ce positif pour nous ou au contraire, est-ce négatif et est-ce un choix des États-Unis?
Je pense qu'actuellement, les États-Unis ont décidé de laisser un peu filer la valeur de leur monnaie et que ça peut nous poser effectivement un certain nombre de problèmes. Tout dépendra un peu de la capacité que nous avons à encaisser des réductions de marge ou des possibilités de séduire quand même les consommateurs américains si nos produits sont très, très bien cotés. En tout cas, ce qui est simple à comprendre, c'est que dans la mesure où le dollar diminue par rapport à l'euro, ça va être plus difficile pour nous de vendre nos produits aux États-Unis, ça va être plus facile pour les Américains de vendre à l'extérieur. Le choix qu'ils ont fait, et ils ont un déficit tellement important actuellement dans les échanges extérieurs que je crois qu'ils n'ont pas d'autre choix que de laisser filer la valeur de leur monnaie. Pour rappeler en quelques mots le problème américain aujourd'hui, c'est que chaque année, ils produisent 6% de moins que ce qu'ils consomment, on va le dire comme ça. Et donc, ils importent deux fois plus de produits qu'ils n'en exportent. Et leur déficit est de l'équivalent de 6% de leur PIB. Et c'est quelque chose qui s'accumule d'année en année et qui fait qu'ils ont une dette extérieure de plus en plus forte et qui fait craindre, en tout cas, à tous ceux qui ont des dollars, qu'ils ne pourront éventuellement ne pas être remboursés un jour. Et la tendance du gouvernement américain, c'est de trouver une solution dans la baisse du dollar, car ça permet de rembourser moins qu'on ce qu'on a obtenu. Alors, pour les produits agricoles, certes, ça va nous poser quelques problèmes, mais comme je disais tout à l'heure que nous sommes plutôt spécialisés sur les produits de haut de gamme, ou les produits en tout cas transformés, ou les produits qui peuvent tolérer un changement dans la parité de la monnaie, jusqu'à maintenant, en tout cas, ça n'a pas affecté les exportations françaises. Je souhaite que ça dure encore un certain temps, mais ça ne pourra pas durer éternellement. C'est-à-dire que actuellement, à 1,41, c'est supportable. S'il fallait 2 dollars pour 1 euro, on aurait des très très gros problèmes d'une manière générale en Europe.
Et pour le coup, c'est vrai que les Américains ont un pouvoir d'achat d'autant plus moindre que leur dollar a baissé.
Pour les consommateurs américains, c'est une mauvaise affaire parce que effectivement, ils doivent payer leurs produits plus cher. Mais il n'y a peut-être pas d'autre solution pour rééquilibrer les échanges américains qui sont vraiment dans très mauvais passe.
Vous parliez de produits transformés, c'est-à-dire de l'industrie, de l'agroalimentaire. Justement, abordons la question de la lecture industrielle. Vous m'en parliez pendant la pause. À quoi correspond la lecture industrielle de la politique agricole commune?
Oui, on oublie toujours, enfin on parle souvent de la politique agricole commune comme une politique qui est uniquement tournée vers les agriculteurs. Je disais tout à l'heure, il faut pas oublier les consommateurs, mais il faut pas oublier non plus les industriels. Les industries agroalimentaires sont le premier secteur industriel en France et en Europe. Et ce secteur industriel est extrêmement important. Actuellement, on observe que les deux firmes les plus importantes dans le monde en agroalimentaire sont Nestlé et Unilever, et ce sont des deux firmes européennes. Et je crois que de ce point de vue-là, on peut dire que la PAC a permis l'expansion d'un certain nombre d'industries et une expansion relativement couronnée de succès, puisque ces deux firmes sont en Europe et puis que Danone, qui est une firme française, doit être au 10e rang mondial, et ce qui est tout à fait honorable.
Nestlé est une firme suisse ?
Nestlé est une firme dont le siège est en Suisse.
Et elle appartient quand même à la politique... profite de la politique agricole commune ?
Elle profite de la politique agricole commune parce que finalement, je crois que ce sont les Suisses qui ont le mieux compris comment utiliser l'Europe. Ils sont situés en plein centre de l'Europe, ils bénéficient de tous les avantages de l'Europe et ils peuvent faire une concurrence fiscale pour attirer les sièges sociaux. Donc ils ont tous les avantages sans en avoir les inconvénients.
Quel est le regard ? Nous avons beaucoup parlé des États-Unis, qui fait partie des concurrents des pays européens. Il y a également la Chine, qui monte de plus en plus, aussi bien pour son industrie lourde que pour également son agriculture. Est-ce qu'elle va devenir un poids, un concurrent important dans les années à venir face à l'Union européenne et à sa politique agricole commune ?
Alors, fort heureusement, pour le monde entier, les gouvernants chinois ont toujours été très attentifs à leur sécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont toujours veillé à ce que la production de blé et la production de viande en Chine soit la plus forte possible, malgré le fait que leur territoire agricole est extrêmement exigu. Mais la Chine a une particularité différente de celle des États-Unis ou de l'Europe, c'est qu'ils ont 1,2 milliard d'habitants, et donc c'est très difficile de parvenir à nourrir cette très grande population. Les Chinois ont toujours été très attentifs à leur agriculture, et ils ont d'une manière générale, assurer leur auto-approvisionnement à peu près dans tous les domaines, sauf dans le domaine du soja ou dans le domaine des huiles. Mais pour l'instant, ils ont réussi à produire suffisamment pour leurs consommateurs. Je vais donner juste un exemple pour les viandes. La Chine produit autant de viande que l'Europe et les États-Unis réunis. C'est-à-dire que c'est deux fois plus que l'Europe ou deux fois plus que les États-Unis. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, savoir s'ils vont pouvoir continuer éternellement à augmenter leur production, c'est toute la question que nous nous posons tous. J'ai tendance à penser que il serait bon qu'ils puissent continuer à le faire, parce que sinon, ça leur posera quand même beaucoup de problèmes de devoir importer, parce que tous les pays dans le monde qui n'ont pas assuré leur sécurité alimentaire ont posé des problèmes en termes géostratégiques. Donc, je crois que à l'avenir, on peut penser que la Chine a les moyens de développer sa production, mais ça sera difficile.
Donc, ça sera un concurrent potentiel ?
Alors, concurrent, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est assez frappant de voir, c'est qu'actuellement, la Chine monte en puissance et qu'ils exportent beaucoup de produits transformés et qui profitent de la vague, j'allais dire, de la cuisine chinoise dans un certain nombre de pays et de la popularité de cette cuisine chinoise pour exporter des produits transformés. Eux ont parfaitement bien compris que c'était sur les produits transformés qu'on gagnait de l'argent, et donc ils profitent de cela. Ceci étant, ils ont tellement de consommateurs et tellement peu de terres que de toute façon, ça ne sera jamais un très 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 gros concurrent sur les marchés internationaux.
Pour terminer cette émission, une dernière question sur l'éthanol. Vous avez parlé de l'éthanol dans votre communication à l'Académie d'agriculture, et notamment sur la mise en place aux États-Unis et en Chine du gel des terres sous forme d'éthanol. À quoi ça correspond et en quoi c'est un souci pour nous en Europe ?
L'éthanol pose un vrai problème, parce que ce n'était pas déjà évident que le monde puisse nourrir le monde, comme le dit souvent Edgar Pisani, c'est-à-dire que nous soyons capables de faire face à 3 milliards d'habitants de plus dans les 40 ans qui viennent, sachant qu'aujourd'hui, à peu près 850 millions de personnes souffrent de la faim et que 2 milliards ont des carences alimentaires relativement importantes. Si on veut demain que les 6 milliards actuels puissent, j'allais dire, au moins manger de la poule au pot tous les dimanches et ne pas mourir de faim, ça va être déjà très difficile. 9 milliards, ça va être encore plus difficile. Mais si nous avons en même temps une concurrence par les produits énergétiques ou par l'énergie renouvelable, qui est une bonne chose dans un certain nombre d'endroits, mais qui peut poser problème en termes d'arbitrage mondial, ça va compliquer un peu les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont affecté 60 millions de tonnes de maïs à la production d'éthanol. Pour les États-Unis, c'est tout à fait supportable, c'est un quart de leur production. Mais ce quart de la production, ça fait à peu près 10% de la production mondiale. Et le fait qu'on mette de côté ou dans une autre production que la production alimentaire 10% de la production mondiale fait monter les prix. Et je crois que ça pose un vrai problème parce que à terme, en tout cas, on peut être sûr que si on laisse les lois du marché opérer, les réservoirs des automobiles des pays riches seront toujours plus solvables que les estomacs des habitants des pays pauvres. Et donc, on ne peut pas tolérer, me semble-t-il, à terme, qu'on favorise le remplissage des réservoirs au détriment de la santé d'une partie du monde. Et je crois que là, on a un vrai problème de société aujourd'hui et sur lequel il va falloir nous appesantir. Je crois que c'est un choix du gouvernement américain de prendre cette stratégie, mais que ce choix est relativement dangereux pour une partie du monde parce que ça peut avoir des répercussions. On vient de voir actuellement qu'il y a eu des manifestations à Rangoon et une partie de l'explication de ces manifestations, c'était le prix de l'essence, mais c'était aussi le prix de l'alimentation. Et si on ne fait pas attention à réguler les prix des marchés des produits agricoles, eh bien on risque d'avoir des manifestations dans toutes les grandes villes des pays en voie de développement dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
On dit souvent que entre les États-Unis et la France, et en l'occurrence l'Union européenne, il y a souvent 10 ans d'écart. Alors, est-ce que nous pourrions, nous, dans 10 ans, voire un peu plus ou un peu moins, également réserver des terres pour l'éthanol au lieu de cultiver du blé, du maïs ou autres céréales ?
Alors, je n'ai pas dit pour autant qu'il fallait condamner toute politique d'affectation de terres à l'éthanol ou au biodiesel ou à une forme d'énergie. Je crois qu'effectivement, de toute façon, ces politiques de fabrication d'énergie sont plus astucieuses que les politiques de destruction ou que les politiques d'évitement ou les politiques de jachère. Et donc, je crois que dans la mesure du possible et dans le respect des équilibres mondiaux, on peut penser que l'Europe puisse produire aussi un peu d'énergie à partir des produits agricoles, plus à partir de la biomasse qu'à partir des produits agricoles eux-mêmes. Parce que ça a quand même quelque chose de choquant d'imaginer que du blé peut permettre de chauffer une maison. C'est pas fait pour ça, normalement. Enfin, je crois que du bois permette de chauffer une maison, c'est normal. Que du blé, ça paraît plus contestable. Donc, il va falloir que la société essaye de trouver des arbitrages qui soient satisfaisants par rapport à ce nouveau défi, qui peut être une opportunité, c'est vrai, mais qui peut être un risque pour la stabilité du monde si on y prend garde.
Dernière question avant de terminer cette émission, Lucien Bourgeois, est-ce que la politique agricole commune a un avenir ou est-ce qu'avec 27 pays, elle risque de n'avoir plus aucun rôle réel à jouer ?
Je pense que la politique agricole commune, non seulement a un avenir, parce que les enjeux alimentaires dont j'ai parlé tout à l'heure me semblent toujours aussi importants et aussi angoissants d'une certaine façon, mais en même temps, je trouve qu'elle peut aussi servir d'exemple pour le fonctionnement de l'Europe. C'est-à-dire que si l'arrivée des Roumains est considérée comme quelque chose sur lequel on n'a pas de réflexion à avoir, ça sera malheureusement quelque chose qui ne sera pas bon pour la stabilité politique de l'Europe. Donc, si nous voulons pouvoir accueillir les Roumains de bonne manière, je crois qu'il faut qu'on soit capable d'avoir une politique européenne digne de ce nom. Et pas seulement une politique agricole, mais une politique économique, une politique de santé, une politique d'éducation et une politique de rattrapage pour un certain nombre de pays. Et je crois que toutes les difficultés que nous avons sur la politique agricole commune devraient nous inciter à essayer de réfléchir sur l'intérêt d'avoir une politique globale européenne digne de ce nom. Si nous accueillons les Roumains, c'est pour les faire devenir des Européens comme les autres, et pas des Européens à moitié. Et donc, je crois que là, on a un vrai défi sur la politique européenne, d'une manière générale, et la politique agricole peut nous servir d'exemple.
Eh bien, nous terminons, je crois, sur une note positive. Merci, Lucien Bourgeois, de nous avoir donné tous ces détails et toutes ces explications sur la PAC, la politique agricole commune. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie d'agriculture et que vous êtes sous-directeur de l'APCA, qui est donc l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Merci beaucoup. Et puis, j'espère à une prochaine fois pour une nouvelle explication de texte.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.